Amen, Jésus. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, mes amis, je vous invite à prendre place et à ouvrir la parole de Dieu dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 6. Nous lirons à partir du verset 3. Daniel, chapitre 6, verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi, « Roi Darius vit éternellement, tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi, au roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, au roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. » Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, « N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi, serait jeté dans la fosse au lion ?» Le roi répondit, « La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. » Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, « Daniel, l'un des captifs de Juda n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière trois fois par jour. » Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ses hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, « Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. » On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant dans la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. » « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Amen. Amen. Et nous relisons le verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. Ce passage est tout à fait adapté à notre réunion de cet après-midi puisqu'il parle de la prière. C'est la prière d'un homme de Dieu. Et un homme de Dieu dans un danger particulièrement terrible duquel Dieu l'a sorti, spécialement grâce à sa fidélité dans la prière, on le voit. Et c'est ce que nous voulons aussi voir maintenant et considérer l'exemple de Daniel, imiter sa foi pour être béni d'une façon semblable. Et nous pourrons évoquer, discerner sept points principaux. Déjà, nous parlerons du lieu de sa prière, ensuite des buts de sa prière, puis nous parlerons aussi de la fréquence de sa prière, des formes de sa prière, du témoignage porté par sa prière, du service de sa prière, et enfin, en septième, du caractère de sa prière. Nous allons considérer chacun de ces points tour à tour. Et déjà parlons du lieu de sa prière, à propos duquel il y a trois choses à noter particulièrement. Remarquez que c'était une prière dans sa maison, déjà. Hein. On voit dans ce verset 10, et chaque maison peut être, non seulement peut être, mais encore devrait être une maison de prière. Hein. Et chez Daniel, c'était véritablement le cas. Et nous pouvons considérer que lorsque ce décret impie a été signé, Daniel s'est retiré dans sa maison, loin de la cour de ce roi qui déshonorait Dieu à ce moment-là. Et c'est cela qui lui a permis de tenir bon dans cet environnement tout à fait défavorable, de son environnement mauvais. Hein. Il avait un lieu pour se retirer et où il pouvait là venir épuiser des forces nouvelles. Et nous aussi, eh bien, nous avons besoin d'un tel lieu, chacune et chacun d'entre nous, dans de semblables occasions, parce que le monde dans lequel nous vivons, d'une manière globale, vous savez, il n'aime pas Dieu, hein, il n'aime pas les choses de Dieu, il est impie. Et il nous faut des moments et des lieux de recueillement pour nous renouveler dans la communion avec notre Dieu. Amen. Et d'autre part, cette piété de chez nous, on dirait si on pourrait parler de cette manière, cette piété de chez nous, entre guillemets, n'est pas à mépriser ni à considérer comme peu de choses. Hein. C'est Hudson Taylor, ce grand missionnaire, homme de Dieu, d'expérience, qui a écrit la chose suivante. « Il ne faut pas mépriser un petit cercle, un petit rayon d'utilité. » Une lumière qui ne brille pas de belle façon à la table de famille à la maison n'est pas prête à partir au loin pour accomplir un grand service pour Dieu ailleurs. Voilà ce que disait cet homme de Dieu. Et ainsi, si Daniel a pu être utilisé par Dieu avec puissance, eh bien, c'est certainement aussi en grande partie à cause de cette piété dans sa maison qu'il a cultivée et maintenue. Amen. Ensuite, concernant le lieu de sa prière, vous voyez que c'était une prière dans la chambre supérieure, en allant plus précisément, toujours dans le verset 10, c'est-à-dire celle qui était tout en haut de la maison, qui était la mieux éclairée, la plus agréable, c'est de là qu'on pouvait probablement jouir d'un beau point de vue. Elle était bâtie habituellement sur les toits en terrasse qu'il y avait dans ces maisons, ces palais peut-être du Moyen-Orient. Et c'est cette pièce-là que Daniel avait consacrée à la prière, à la louange et à l'adoration de son Dieu. Et certainement, nous pourrons connaître une bénédiction semblable à la sienne si nous agissons pour lui, comme lui, pardon, concernant le Seigneur, consacrant au Seigneur le meilleur de notre maison et de notre vie tout entière. Amen. Et puis une chose qu'on voit encore, c'est que les fenêtres de cette chambre étaient ouvertes. C'est-à-dire que littéralement, ça veut dire qu'elles n'étaient pas grillagées. Ça, c'était quelque chose qui était rare en ce temps-là. Et si elles n'étaient pas grillagées, c'est parce que Daniel l'avait voulu ainsi. Hein. Il avait fait construire ainsi, s'il avait fait construire cette pièce supérieure, ou il les avait fait enlever, les grilles, hein, si elles étaient là auparavant, parce que Daniel voulait exprimer ainsi qu'il ne devait y avoir aucun obstacle entre lui et Dieu d'une part, et entre lui et l'objet ou les objets de sa prière d'autre part. Hein. Et nous devons toujours garder à cœur de supprimer tout obstacle qu'il pourrait y avoir entre nous et Dieu ou avec nos frères et sœurs. Hein, que tout péché secret soit donc banni de nos cœurs, que tout mauvais sentiment soit éloigné dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, que tout grillage soit enlevé pour que, dirons-nous, la colombe de l'Esprit de Dieu ne soit pas emprisonnée ni empêchée d'entrer, mais que la grâce du Seigneur puisse pleinement se manifester. Amen. Après, notre deuxième point, ce sont les buts de la prière. Voyez que ces fenêtres, est-il dit, étaient ouvertes en direction de Jérusalem. Et ceci nous montrait le but principal de la prière du prophète. Il désirait le rétablissement de Jérusalem et priait depuis des années, probablement depuis de longues années pour cela. Et c'est une chose qui paraissait parfaitement impossible en son temps, hein, parce que la ville... Le temple avait été complètement détruit, des amoncellements de gravats, de cendres, de détritus, de toutes sortes, recouvraient les ruines, de nombreux ennemis campaient victorieusement sur les lieux, hein, les habitants de Jérusalem avaient été dispersés au loin, De nombreuses années étaient passées depuis, et pourtant Daniel continuait à prier. Pourquoi cela ? Eh bien parce qu'il s'appuyait sur la parole de Dieu. Il y avait effectivement des promesses qu'il pouvait exactement appliquer à la situation, alors il le faisait. Quand je lis par exemple, sans perdre mon texte, dans 1 Roi chapitre 8 et au verset 46, dans la prière de Salomon, voilà la situation qui est annoncée, qui risquait de se produire et qui hélas s'est produite. 1 Roi 8 verset 46, Salomon dans sa prière dit la chose suivante. Quand ils pécheront contre toi, Seigneur, car il n'y a point d'homme qui ne pêche. Quand tu seras irrité contre eux, que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés, et qu'ils disent « Nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal !» S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux du lieu de ta demeure leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi. Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs afin qu'ils aient pitié d'eux, car ils sont ton peuple et ton héritage. Et tu les as fait sortir d'Égypte du milieu d'une fournaise de fer. Voyez-vous ? Donc voilà, Daniel connaissait l'Écriture. Et il s'appuyait sur des passages, sur un passage comme celui-là. Il a pris à la lettre les paroles de ce verset, de ces versets, pour les appliquer. Et certainement, voici quelque chose aussi qui sera pour notre prière un très grand encouragement. Parce que vous avez peut-être des situations, des sujets de prière qui vous paraissent impossibles, mais certainement pas autant que, de loin pas autant que celui que Daniel avait là. Et peut-être que vous avez prié depuis longtemps pour des choses de ce genre-là, sans obtenir de réponse claire. Mais certainement, vous n'avez pas prié aussi longtemps, depuis aussi longtemps que Daniel. D'après ce qu'on peut estimer, ça faisait plus de 60 ans qu'il priait pour cela, à peu près, donc à ce moment-là. Il n'avait pas encore fait son calcul des 70 ans de la captivité, qui est prophétisé par ailleurs, mais en tout cas, il l'avait fait depuis longtemps. Et il est bon que nous puissions, comme lui, pardon, apprendre à appuyer nos prières sur la parole de Dieu, parce qu'alors on aura une base sûre, et ceci jusqu'à l'exaucement. Amen. Mais il y a une autre Jérusalem vers laquelle les fenêtres étaient ouvertes, et c'était la Jérusalem d'en haut. La Jérusalem d'en haut, c'est en effet celle qui est libre, celle qui est la mère de tous les croyants, est-il dit, et surtout, bien sûr, les fenêtres étaient ouvertes vers celui qui dirige cette Jérusalem-là. C'est-à-dire vers le roi des rois, vers le seigneur des seigneurs. Et au-delà de l'établissement ou du rétablissement de la Jérusalem terrestre, le prophète visait à l'établissement de la Jérusalem céleste. Amen. Et ainsi nous pouvons avoir différents sujets de prière pour les choses de la terre, des sujets très bons, très légitimes, mais n'oublions jamais les choses du ciel. Donc des choses qui ne passent pas, qui durent éternellement, et ayons toujours à cœur, ayant toujours les fenêtres ouvertes, parce que notre roi et Seigneur Jésus-Christ désire se glorifier. Amen. Amen. Et puis, parlons de la fréquence de sa prière. Vous l'avez vu dans ce verset 10, Daniel priait combien de fois ? Trois fois par jour. Pourquoi trois fois par jour ? Eh bien, peut-être parce que s'il trouvait logique de nourrir son corps physique trois fois par jour, il lui paraissait au moins aussi important de nourrir son âme et son esprit de la même façon et suivant le même rythme. Et puis de plus, il est vrai que le rythme de trois fois par jour est un bon rythme. Le matin, pour remettre toute chose entre les mains de Dieu, entre les mains du Seigneur. Le midi, pour reprendre des forces spirituelles après les travaux, les occupations de la matinée. Et puis, avant de s'engager dans un long après-midi. Et puis le soir aussi, pour faire le point, pour confier le repos de la nuit à celui qui peut nous garder fort parfaitement et qui veut ainsi aussi nous renouveler. Amen. Alors, vous savez, il y a bien d'autres exemples d'une telle façon d'agir dans la parole de Dieu par ailleurs, spécialement dans les psaumes de David, ou par exemple aussi dans le livre des Actes des Apôtres. Et toute chose, grande ou petite, peut donc être confié au Seigneur en tout temps. Ça, c'est précieux et aussi important. C'est Spurgeon qui donne la citation suivante. Il disait, je me souviens d'avoir un jour entendu dire la chose suivante. Monsieur Untel est un brave homme, mais il a de drôles d'habitudes. Car l'autre jour, il a prié pour une clé qu'il avait perdue. La personne qui m'a dit cela considérait avec étonnement l'idée de prier pour une clé perdue. Et elle a semblé encore plus surprise quand je lui ai assuré que je priais de la même façon. Comment ? Prier pour une clé ? Oui, dites-moi s'il vous plaît, quelle taille doit avoir un objet avant qu'on puisse prier à son sujet ? Si une certaine taille est la norme, alors elle doit être indiquée dans la Bible pour que nous puissions apprendre les mathématiques de la prière. Voudriez-vous qu'il soit écrit que si un objet a telle longueur, on peut prier à son sujet, mais que s'il est trop court d'un demi-centimètre, nous ne devons plus y penser ? Si nous ne pouvions pas prier pour les petites choses, ce serait une terrible calamité, car les petites choses nous causent de grands soucis et elles sont souvent plus difficiles à traiter que les grandes. Si nous ne pouvions pas prier pour des matières mineures, ce serait une terrible perte de réconfort. Voilà, nous pouvons prier au Seigneur en tout temps, chaque jour et en toute situation. Amen. Et puis parlons un petit peu des formes de la prière. Les formes de la prière de Daniel, et là aussi trois choses peuvent être relevées. Déjà, c'est une prière à genoux. C'est ce qu'on voit là, dans ce verset 10 toujours. Donc c'est une prière d'humiliation. Prière d'humiliation, Daniel savait s'humilier. Et c'était certainement une grande part du secret à cause duquel Dieu l'avait élevé, Dieu l'avait utilisé et béni ainsi. Il est important, réellement important, que Dieu en tout temps puisse avoir toute la gloire. Que ce soit à lui que revienne tout l'honneur et que ce soit à lui que revienne toute la gloire. Et pour cela, il faut que notre orgueil soit vraiment rabaissé. Voici le témoignage d'un hindou converti qui s'adressait à un certain nombre de ses compatriotes et qui leur dit la chose suivante. Par ma naissance, je suis d'une caste tellement insignifiante et méprisable, tellement basse, que s'il arrivait à un brahmane de me toucher, il devrait aller se baigner dans le Gange pour en être purifié. Et pourtant, il a plu à Dieu de m'appeler, non seulement à la connaissance de l'Évangile, mais encore au grand privilège de l'enseigner à d'autres. Mes amis, connaissez-vous la raison de Dieu pour agir ainsi ? C'est la suivante. Si Dieu avait choisi un brahmane instruit et avait fait de lui un prédicateur, les auditeurs auraient dit que ce sont les grandes connaissances du brahmane et ses qualités de caractère qui ont fait de lui un puissant gagneur d'âmes. Mais pour moi, tous ceux qui sont convaincus de mon ministère ne m'en attribuent aucune louange, et c'est à Dieu à qui elle est due que revient toute la gloire. Voilà, ça c'est une bonne attitude, très bonne attitude. Et une prière bénie et efficace, et donc apportée par un cœur qui sait s'humilier. D'ailleurs, ce serait facile de développer ce point et de le prouver largement, simplement en lisant le chapitre 9 du livre Daniel, mais ce n'est pas notre sujet principal, alors nous voulons continuer. Vous pouvez voir aussi, concernant les formes de sa prière, il s'agit aussi d'une prière de louange. C'est une prière de louange, c'est dit aussi qu'il louait son Dieu. Pardon, pas seulement le dimanche matin, mais trois fois tous les jours, les louanges montaient de la chambre haute de la maison de Daniel. Et c'est aussi ce qui fait que, je dirais, la présence de Dieu l'accompagnait continuellement parce que l'Éternel se plaît au milieu des louanges. Le Seigneur se plaît au milieu du louange de son peuple, parce que c'est de cette manière qu'on obtient l'esprit de victoire, frères et sœurs. Donc, et c'est certainement l'habitude renouvelée constamment dans la louange, c'est quelque chose de précieux et de très avantageux pour un croyant. Amen. Et puis c'est une prière aussi d'invocation. Il invoquait son Dieu, c'est-à-dire qu'il s'adressait à lui, croyant qu'il était vraiment présent, et l'appelant vraiment à se manifester pratiquement. À se manifester concrètement, demandant des choses bien précises, des actions de Dieu bien nettes et bien réelles. On peut prier, bien sûr, pour tous les malades de la terre. Mais vous savez, quand on prie pour tous les malades de la terre, on n'a pas beaucoup de foi, parce que notre foi, elle est diluée complètement. Mais lorsqu'on prie pour une personne et une situation précise, alors là, on a un objet pour notre foi. Et là, on peut même manifester une force. Il nous faut invoquer Dieu de cette manière-là. Attendons-nous à Dieu et ne soyons pas satisfaits avant qu'il se soit clairement, pleinement manifesté et qu'il n'ait concrètement exaucé. Amen. Et voici maintenant notre cinquième point, c'est-à-dire le témoignage de sa prière. Et quel est ce témoignage ? C'est un témoignage de persévérance, remarquez bien. Et certainement, ce qui a le plus frappé le roi, à ce moment-là, c'est la persévérance de Daniel dans la prière. Par deux fois, au verset 16 et au verset 20, il dit « Ton Dieu que tu sers avec persévérance hein ». Il voit cela. Et c'est une des grandes raisons qui lui a fait éprouver beaucoup de respect pour Daniel. Vous savez, aujourd'hui, il en est de même. Dans un monde où les gens, en plus, ont de plus en plus de mal à poursuivre jusqu'au bout ce qu'ils ont entrepris, eh bien, on finira toujours par respecter et à considérer quelqu'un qui, fidèlement, jour après jour, année après année, tient ses résolutions, tient sa parole et tient ses entreprises, et même tient ses entreprises de foi. Hein, donc, un témoignage qui porte vraiment du fruit, c'est un témoignage persévérant. Et la prière, c'est la même chose. Et certainement, le cœur du roi était travaillé, ébranlé par le témoignage de la persévérance de Daniel. Sinon, vous croyez qu'il a entrepris cette démarche au petit matin ? Démarche ridicule hein, aux yeux de quiconque pouvait le voir. Comment échapper à des lions affamés, là, pendant toute une nuit ? Mais Darius, sans avoir vraiment encore la foi, malgré tout, avait suffisamment été ébranlé, par, je dirais, la prière, par la persévérance de Daniel à prier, et pour se dire qu'après tout, ben, peut-être qu'il y avait un miracle. Et que si un miracle devait se produire, eh bien, certainement, c'est en faveur de Daniel qu'il se produirait, voyez-vous. Et je crois qu'il faut se dire cela. Si nous sommes persévérants, frères et sœurs, il se passera des choses comparables. C'est-à-dire des gens qui peuvent être au départ opposés, qui peuvent être sceptiques, etc. Eh bien, malgré tout, eh bien, progressivement, sans peut-être même qu'ils s'en rendent compte, mais leur cœur va être disposé d'une façon différente. Voyez-vous ? Et au jour où Dieu les visitera, à ce moment-là, ils pourront être bouleversés à salut, comme ça a été le cas pour Darius dans notre texte, et d'ailleurs pas que Darius, hein, Nebuchadnezzar aussi, lorsqu'on regarde l'histoire de Daniel par ailleurs. Hein, donc voilà, voyez donc le témoignage de cette prière persévérante. Et puis le sixième point que nous voyons maintenant, c'est le service de la prière. Vous savez, il y a différentes formes de service pour le Seigneur, qui sont, oui, diverses, et certains sont capables de servir d'une façon, les autres d'une autre. Et certains ont beaucoup de dons, d'autres en ont moins. Il y en a qui se lamentent de ne pas pouvoir le servir. Mais c'est que bien souvent, ils n'ont pas encore réalisé toutes les possibilités qui sont à leur disposition. Hein. Particulier, ces versets 16 et 20 que nous venons de relire nous montrent que Darius, pourtant inconverti, remarquez ce qu'il dit. « Ton Dieu que tu sers avec persévérance ». Qu'est-ce qu'il voit du service de Daniel ? Une chose, la prière. Donc, cet inconverti a compris une chose qu'un certain nombre de chrétiens n'ont pas encore converti, c'est que la prière est un service magnifique pour Dieu. Il a compris cela, voyez-vous ? Et ce passage est là. Hein ? Et je crois qu'il y a quelque chose de puissant, d'efficace, que chaque chrétien peut faire et qu'il fera avec grand avantage pour lui et pour l'œuvre de Dieu s'il le prend à cœur et s'il le poursuit avec fidélité. Amen. Enfin, le grand caractère de la prière, quel est-il ? Il continue dans la conclusion de notre passage, ce verset 23. « Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. » Ah oui, c'est ça, la grande base de la prière. Hein ? C'est parce que nous avons confiance en notre Dieu, parce qu'il nous, à quoi ça sert de prier ? Hein, si quelqu'un n'a pas confiance dans le Seigneur, pourquoi perdre du temps à prier ? Pourquoi venir dans des réunions de prière ? Hein ? Est-ce que... Je me souviens d'avoir entendu un jour cette anecdote-là. Donc, cette personne racontait qu'elle avait un chien. Et ce chien le nourrissait à table. Et puis un jour, sa femme n'était pas d'accord. Elle a dit « Non, mais écoute, c'est pas la peine. Je ne veux plus que tu nourrisses ce chien à table. Hein » Donc, il le nourrissait par terre, mais voilà. Et le chien, vous savez, les chiens, ils sont surprenants des fois. Hein. Il a senti ce qui se passait. Hein. Il a ressenti pourquoi on ne donnait plus de nourriture pendant que la famille était à table. Alors, il a pris l'habitude de ramper sous la table pendant que la maîtresse de maison ne regardait pas. Et puis, il s'asseyait avec le museau posé sur les genoux de son maître. Et puis, l'appel silencieux était insupportable au maître, donc qui marie pendant que sa femme ne regardait pas, hop, il lui glissait des morceaux comme ça, et puis le chien discrètement, sans faire de bruit, les avalait sous la table. Vous voyez, hein, tous les animaux ne sont pas si bêtes que ça. Hein. Voilà. Alors, voilà, vous savez, nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on n'a pas besoin d'être silencieux déjà. Hein. Et on n'a pas besoin de ramper non plus pour s'approcher du Seigneur. Alléluia. Hein, donc, c'est ça qui est important. Nous avons un cœur, un Dieu, pardon, qui a un cœur bien plus tendre que, eh bien, que le meilleur des hommes. Et nous pouvons nous confier en lui. Hein. Nous confier en lui et prier comme Daniel, qui a ainsi manifesté sa foi et qui a ainsi obtenu de si grandes bénédictions. Béni soit son nom, béni soit le Seigneur. Amen. Te remercions, Seigneur, de ce que tu es celui qui nous a fermis en toi, qui nous encourage et nous fortifie pour prier, Seigneur, mener une vie de prière, de service pour ta gloire, pour ton nom. Et merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui agit, le Dieu qui exauce. Et merci pour la bonne œuvre que tu veux encore faire pour qu'il en soit ainsi. Et merci pour le soutien que tu donnes à toutes ces prières qui montent vers toi avec ferveur. Nous te remercions, notre Seigneur, notre Dieu. Nous te glorifions. Amen, Jésus. Alléluia. Amen, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous avons quelques annonces. Simplement à rappeler. La prédication en ligne, c'est vendredi soir, 20h15, sur le site de notre église, toujours. L'évangélisation est prévue samedi à 14h30 dans les villages des alentours. Bon, on ira à moins de 10 km, mais enfin, à moins de 10 km, il y a quand même de quoi faire. Hein, encore. Le culte ici, dimanche, est à 8h30 et à 10h45. Inscrivez-vous dès que possible pour y participer. Si vous voulez le faire aujourd'hui, faites-le, s'il vous plaît, auprès de Jean-Baptiste. Voilà, merci d'avance. Et puis, il y a toujours une carte qui est déjà bien remplie, mais il y en a une deuxième. Là, je parle des cartes, de la carte de condoléances pour Françoise, donc à propos de Thierry. Ceux qui veulent encore mettre un mot, eh bien, profitez encore maintenant pour le faire, pour que nous puissions quand même la lui donner dès que possible. Voilà. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et vous soutienne. Merci, Seigneur. Gloire à son nom. Alléluia.